Coupe Polysécur, épisode spécial Cyber-Éco. Je suis accompagné de Vicky. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, allô, moi c'est Vicky. Je suis étudiante, je suis candidate au doctorat à l'Université de Montréal en criminologie. Je fais aussi de la réponse à incidents, j'aimerais ça dire dans mes temps libres, mais je sais pas c'est quoi un temps libre honnêtement. Donc je fais les deux en même temps.
Ouais, ben ça occupe énormément de temps de faire les travaux que tu fais, justement de la recherche que tu fais. Tu es venu présenter à CyberEco une étude que tu as exécutée sur les rançons logicielles depuis les dernières années pour essayer de tirer une compréhension de celle-ci. Fait que je vais te laisser présenter ça.
Oui, donc j'étais venue aujourd'hui pour présenter, dans le fond, les résultats de ma thèse. Ça a été une étude que j'ai faite depuis les 5 dernières années, qui a commencé avant la pandémie. Donc, je m'étais... je regardais c'était quoi les nouveaux problèmes dans le monde pour me trouver un sujet de thèse. Et je venais de finir, je travaillais un projet avec la SQ sur le leurre informatique. Donc moi, j'étais toujours quelqu'un qui voulait aider le monde avec la recherche. Donc je me cherchais un nouveau problème à régler. Puis je me suis dit, les rançons logicielles, je pense qu'il y a un futur là-dedans. Et là, ben COVID est arrivé, puis ça a dit « hold my beer », puis là, ben voilà où est-ce qu'on en est. Donc, moi, ce qui me gossait avec les rançons logicielles dès le début, c'est que je comprenais pas pourquoi que les défendeurs avaient autant de misère à répondre aux instances. C'était comme si, surtout dans les médias, ça avait toujours l'air comme on s'est fait prendre par surprise. On était toujours en réaction, puis on n'était pas capable d'être, d'être proactif. Puis moi, je me suis dit, bon, mais il y a un challenge là-dedans. Puis la fille qui s'y connaît zéro, techniquement, c'est elle qui va régler ça. C'était peut-être un peu ambitieux, mais c'est comme ça que ce projet-là a commencé. Après ça, j'ai rentré dans l'industrie et c'est là que les choses ont vraiment comme changé d'angle. Parce qu'avec l'expérience d'industrie, tu réalises que la recherche et l'industrie, des fois, il y a un petit...
Un grand vide. Une grande distance.
un mur entre les deux que chaque étudiant doit frapper une fois qu'il rentre. Ce que j'ai commencé à faire, c'est à regarder l'évolution des rançons logicielles. Mais je ne voulais pas regarder sur l'angle de qu'est-ce qui continuait de changer. Ça, il y avait énormément de recherches là-dessus qui étaient super intéressantes. Mais je ne peux pas l'expliquer autrement que j'avais un gut feeling que ce n'était pas l'angle qui était pour moi. Donc, j'ai commencé à regarder sur, d'un point de vue criminologique, pourquoi, comme, qu'est-ce qui changera pas? Qu'est-ce qui reste? C'est quoi l'essence derrière un rançon logiciel? Donc, c'est quoi les comportements qui changent jamais? Parce que je me suis dit, si je suis capable de l'évaluer, de les identifier dans le temps, puis que ça reste stable, si je suis capable de trouver une façon d'attaquer ça, peut-être que là, je vais être enfin capable de flipper le switch, puis que là, on va être capable d'être en proactivité et non toujours réagir aux rançons logicielles. Donc, c'est comme ça que ça commence.
Très intéressant. Puis pour avoir répondu à des incidents depuis les 6-7 dernières années, je trouve ça intéressant de cette approche-là. Puis d'avoir un regard extérieur aussi par rapport à ça, parce que ce que tu as probablement remarqué, c'est qu'on est pris dans nos habitudes.
Mm-hmm.
Et de ces habitudes-là, on n'est pas capable de prendre le recul nécessaire pour être capable de trouver peut-être un point commun à toutes ces attaques-là ou qu'est-ce que la motivation. Et d'autant plus avec ton regard de criminaux, tu es capable de plus regarder la motivation humaine en arrière de ça et mm-hmm. non juste de regarder l'effet technologique qui va changer l'effet technologique. Mais l'effet humain qui sous-tend ne change peut-être pas aussi vite ou peut-être pas du tout littéralement, là, tout dépendant comment tes recherches t'ont mené.
Oui, moi j'ai trouvé qu'on avait beaucoup tendance à oublier l'humain. Que c'est quand même des humains qui commettent un acte criminel. Donc je voulais vraiment ramener, malgré que mon projet reste quand même très technique, je voyais vraiment les techniques comme des comportements humains. Tu sais, c'est un outil... La technique, c'est l'outil dans lequel que tu commets l'acte. Donc, j'ai vraiment voulu focusser là-dessus. Ça a été très enrichissant parce que quand que tu viens d'un milieu de criminologie, tu n'es pas une personne tant technique que ça. Donc, ça peut freiner beaucoup de recherches, ce qui est quand même dommage. Comme j'ai dit, moi, j'ai rentré dans l'industrie, donc j'ai appris le technique dans l'industrie, ce qui a beaucoup plus enrichi mes recherches que j'ai faites depuis ce temps-là.
Oui, et donc, justement, c'est quoi, ben c'est, et parlons-là de cet enrichissement-là, c'est qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as appris ou comment tu as réussi à absorber ce qui était manquant pour faire des recherches dites plus techniques? Là?
Je te dirais que ça a été la compréhension de la réalisation que ça prenait pas la tête à Papineau. Ce qui est une expression très, très québécoise, I guess, en espérant que tout le monde la comprenne. Avant que j'ai commencé, moi, je pensais que les rançongistes, c'était la chose la plus sophistiquée au monde, que c'était des tours de magie, OK? Comme que, peut-être comme dans les films, tu sais, dans cette idée-là. Puis plus que je les ai étudiés, plus que je me suis rendu compte que finalement, tu peux en faire en 4-5 lignes de commande aussitôt que tu as l'accès, là. C'était beaucoup moins magique que je pensais. C'était aussi... malheureusement, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il manque beaucoup, beaucoup de bases dans les organisations, au niveau de sécurité. T'sais, il y a beaucoup, beaucoup d'organismes qui achètent énormément de produits de cybersécurité, ce qui est fantastique, mais qui ne sont pas appliqués comme il faut ou qui sont juste comme « oui, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas mis en place. » OK, great, sauf qu'il faudrait quand même que... Si on fait juste la base, déjà ça pourrait déjà nous aider. T'sais, juste savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement, comment que c'est configuré, serait aussi déjà très important de savoir. Puis ça, c'est réponse à incident, c'est la première chose que je vais poser comme question. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as dans ton environnement? Est-ce que, tu sais, comme, est-ce qu'on peut partir de là? Puis souvent, c'est, je pense qu'on a ça. Peut-être qu'on a un serveur. Peut-être. Non, faut qu'on le sache. Tu sais, comme, faut le savoir, faut commencer à la base, bien configurer les choses. Puis après ça, tu veux acheter tous les produits de cybersécurité, moi, j'ai aucun problème, je vais t'aider. Mais la base.
Bien, c'est intéressant de voir, en plus d'un angle initialement extérieur au domaine, dire la même chose que on va dire les experts du domaine disent depuis longtemps. L'hygiène de base, elle va régler probablement 80% des problèmes. Donc, avec 20% d'efforts, 80%, la vraiment. Et les gens ne font pas ça, ils vont investir, comme tu mentionnes, dans des outils ultra sophistiqués, la dernière chose à la mode, machin. Le déploie mal, le déploie pas du tout ou l'exploite pas comme il faudrait.
Mm-hmm.
Et je le vois encore, les incidents que j'ai vus dernièrement sont encore techniquement très simples.
Mm-hmm.
Et comme il y a le plus gros, le dernier plus gros que j'avais géré, c'est il y a 6 ans. Et c'est sensiblement la même chose qu'il y a 6 ans. Pour moi, il n'y a rien qu'à changer. Les chemins, les outils ont changé un peu. Il y a quelques affaires qui ont changé. Mais il n'y a pas dans la façon que ça s'est exécuté, ça n'a pas changé. Puis je me rappelle, un des premiers que j'avais eu à gérer il y a 6 ans sur les rançons logicielles. Et on avait vraiment la trace complète de ce qu'il avait fait. Et on voyait l'attaquant, il s'est juste tapé la tête sur quelque chose. Jusqu'à temps qu'il trouve quelque chose qui fonctionne. Mais il s'est tapé la tête pendant 2 jours. Littéralement. T'as coupé, puis il a trouvé l'endroit que ça a rentré, puis là, il est rentré. Puis là, ça a levé toutes les alarmes, on l'a intercepté, on a intervenu. Mais on n'avait pas l'info pour les 2 jours qui ont passé, si on n'avait pas la visibilité sur quand il s'est tapé la tête sur des systèmes qui étaient efficaces. Mais du moment qu'il y avait un système qui n'était pas efficace, puis là ça levait un incident. Ça s'est bien résolu en moins de 24 heures dans ce cas-ci, là, mais il demeure que de voir ça, puis quand j'ai regardé le dernier que j'ai eu à regarder, c'est exactement la même chose. L'attaquant, il rentre. Ben, ça a changé un peu parce qu'il n'y avait pas tant de séparation de tâches il y a 6 ans. Maintenant, il y a énormément de séparation de tâches. Fait que c'est plus fragmenté. C'était vraiment l'accès initial est disjoint de ce qui se passe après. Mais c'est vraiment la seule nuance que j'ai remarqué de la différence dans le dernier que j'ai fait. Mais il y avait vraiment juste ça. Fait que dans ce côté-là, je suis arrivé, j'ai vu l'accès initial. Là, ça il a pris un peu de temps. Donc, clairement, il a vendu son accès initial à quelqu'un d'autre. Puis tout le second est rentré puis a mené ses attaques. Et c'était d'une banalité comme il y a 6 ans, exactement comme dans mon premier cas que j'avais géré. Il est rentré, il s'est tapé la tête sur les choses jusqu'à temps qu'il trouve une chose puis il est rentré. Puis c'est tout ça, là.
C'est ça qui est dommage parce que, tu sais, moi, j'avais peut-être des lunettes roses quand j'ai commencé tout ça, mais ça a été la plus dure réalisation, ça a été que finalement, malgré tous les avancements qu'on a faits, le 80 % c'est ça qui va sauver la journée. Ton 20 % qui est la différence, tu sais, quelqu'un qui a le talent, un groupe qui a le talent et le temps et les ressources, s'ils veulent te frapper, ils vont le faire. T'sais, je parle au niveau APT, ils ont le temps, ils vont être capables.
Le vrai advance, lui, il n'est pas ça, mais si le vrai advance, il n'y en a pas tant que ça. Et il s'attaque à des cibles déjà prédéfinies, mm-hmm. puis c'est déjà connu. Là. Il s'attaquera pas à la luminerie du coin ou à la PME de matelas. Là. Il ira pas là.
Donc ça déjà là, c'est moi, une des choses que je dis à mes clients, c'est on va aller pour un risque qui t'est approprié, des menaces qui sont spécifiques à toi. Comme tu dis, une PME, à moins que tu deals avec quelque chose d'une intelligence ou une intellectualité, propriété intellectuelle extrêmement spécifique, les chances que tu aies un APT en arrière de toi, c'est slim. Je veux dire, ton risque est jamais à zéro, mais c'est quand même petit. Fait que si on peut focusser sur vraiment ce qui est le plus probable, puis ça va être une attaque d'opportunité. Ça va être quelqu'un qui veut un quick win. Donc, puis ça a été le groupe que heureusement que j'ai étudié. C'est aussi les groupes qui sont les plus communs, surtout pour des rançons logicielles, qui vont vouloir un quick win. Donc, mes recommandations dans mon projet avec ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment regardé comment je peux rendre une surface d'attaque le plus gossante possible pour qu'un attaquant juste fasse comme, tu sais quoi? Pas aujourd'hui. Ça me tente pas. Des fois, le meilleur truc en cybersécurité, c'est juste d'être plus gossant que quelqu'un d'autre.
Ouais, ben c'est ça. De ce que tu as vu comme très commun, parce que c'est ça que tu cherchais, quels sont ces très communs-là que tu as vus dans les différents groupes qui sont actifs et les choses que les papiers que tu as analysés?
La chose que j'ai le plus remarqué, c'est à quel point que les attaquants ont besoin des infrastructures, des victimes pour s'aider. Ça, pour moi, ça, c'était la révélation la plus importante parce que ça, c'est quelque chose que du côté de défendeur, on peut contrôler. Ben, techniquement, ça appartient aux victimes, mais s'ils nous engagent, généralement, on a accès à leur infrastructure. Donc, on peut recommander. Fait que ça, c'est fantastique parce que tu peux jamais contrôler de loin un attaquant. Je peux pas dire contrôler quel outil il y a. Mais par exemple, je peux contrôler l'environnement de ma victime. Fait que s'ils en ont besoin, c'est là que je peux frapper puis avoir le plus d'efficacité, viser l'efficacité sur ça. L'autre chose que j'ai vraiment remarqué, c'est l'importance des comptes valides. Puis ça a été la technique qui a été le plus stable, le plus prédominant. Mais non seulement ça, mais il était le plus prédominant sur plusieurs stages de l'attaque, dans le processus d'attaque. Donc, on le voyait comme moyen d'entrée, comme moyen d'évasion de défense, de reconnaissance interne. On le voyait pour élévation de privilèges, de persistante, pour mouvement latéral. Dans le fond, n'importe quoi, je le voyais. Puis ça, par exemple, ça m'a vraiment donné un petit flag, un petit drapeau qu'il faudrait vraiment revoir les accès des comptes. Vu que c'est la chose qui a été le plus utilisée, et c'est de revoir non seulement les accès, puis je sais que le principe de moindre privilège est quand même commun. Moi, les recommandations que j'ai faites, c'est d'aller d'un pied plus loin, puis de vraiment regarder, puis ça, c'est pour ça que les sysadmins n'aiment pas tant que ça, parce que je recommande souvent d'y aller par groupe d'employés. Donc, t'es comme tous ceux qui travaillent en réponse à incident, tout le monde. Puis de regarder vraiment quel accès qu'ils ont vraiment besoin, mais aussi regarder pour time-based, donc pour les heures. Généralement, les employés, puis ça, je parle pas toujours en cyber, OK? On est peut-être une gang à part, mais généralement, à partir de 9 heures le soir, tes employés travaillent pas. Comme je dis, ça prend pas ceux de TI ou ceux de cyber, là. On travaille tout en soirée, là. Mais, fait qu'après 9 heures, les comptes devraient peut-être plus avoir accès à l'interne. Et encore les courriels, ça, il n'y a aucun problème. Mais peut-être que ça ne serait pas le meilleur des temps qu'il y ait accès, je ne sais pas, directement à l'AD pour aller changer des configurations. C'est peut-être que ça serait trop un risque. Après ça, c'est de regarder, est-ce que tes adjointes ou tes ressources humaines ont besoin d'avoir des privilèges d'admin sur genre PowerShell, avec PowerShell ou avec comme any, tu sais, comme any, aucune des choses que nous on utilise. Ma règle, c'est s'ils ne savent pas c'est quoi, ils ne devraient pas avoir accès. S'ils n'en ont pas besoin tous les jours, limiter ces accès-là. Après ça, c'est de regarder sur la base de géolocalisation. Les block list puis les allow list, je ne sais pas c'est quoi en français. Liste d'accès, liste de...
Liste blanche, liste noire. Ceux-là.
Donc, ça serait vraiment de regarder, OK, tes employés travaillent de où et de bloquer tout le reste. Parce que à moins que soit ton attaquant soit chez l'employé, il ne devrait pas être capable d'utiliser ce compte-là pour se connecter d'ailleurs. Donc, de vraiment focaliser ça. L'idée avec les time-based puis avec l'heure et la localisation, c'est que ça va forcer les attaquants de travailler dans des heures que nous, on veut. C'est que tu forces une main un peu. Puis ça, sûr, tu sais, tes attaquants ont aussi des vies, hein? Je ne sais pas dans quelle zone dans la time zone qu'ils vont être, mais ils risquent d'avoir des vies.
Ouais, puis généralement, ils ne sont pas dans notre time zone en général, ce qui fait qu'ils vont attaquer à des heures quand nous, on ne travaille pas et vice versa. Mm-hmm. Donc, et dans plusieurs, même dans plusieurs pays, c'est littéralement soit des employés d'État ou des employés mm-hmm. qui ont un travail de 9 à 5, le même genre de choses. Ils ne travaillent pas 24-7, là, sont vraiment juste, mm-hmm. ils rentrent le matin avec la boîte à lunch. Puis ils viennent hacker des choses, puis ils terminent à 5 heures, tombent dans leur famille, un petit souper. Puis,
c'est ça. C'est donc, c'était vraiment de regarder un peu les comportements des usagers aussi, puis après ça, de regarder qu'est-ce qui n'est pas normal. Tu sais, comme, je travaille réponse à incident, que moi, j'ai accès à 3 heures du matin, c'est assez comme... C'est un petit peu trop commun, là. On pourrait... Si les attaquants pourraient travailler 8 à 5, ça serait fantastique pour moi, là, s'il vous plaît, guys. Mais sinon, mes ressources humaines n'auraient pas besoin à 3 heures du matin ou n'importe qui d'autre qui ne travaille pas dans tech. Fait que c'est vraiment de repenser aux accès de ce point de vue-là. Pas juste comme « one size fits all ». Puis l'impact que ça a pour surtout les comptes valides, c'est que là, ça vient de rendre la tâche beaucoup plus difficile. Parce que là, il faut que je travaille. Si je suis un attaquant et je veux attaquer, j'ai un compte. Ouais, mais là, il faut que je travaille sur des heures spécifiques. J'ai pas accès à tout. Si le réseau il est segmenté de la façon pour éviter que les données sensibles soient accessibles, là, il faut que j'aille commencer à aller chercher beaucoup plus d'accès. Il faut que j'aille travailler sur des heures que peut-être ça ne fait pas mon affaire. Parce que peut-être que ma partenaire, mon conjoint, ne veut pas que je travaille après 8 heures le soir. Fait que là, ça commence à devenir compliqué. Quand que je peux juste aller ailleurs puis peut-être trouver que je n'ai pas ces enjeux-là. Donc, c'était un peu ça dans cette ligne de pensée-là. Après ça, j'avais aussi j'ai vraiment cherché les endroits que les attaquants allaient targeter le plus souvent. Parce que moi, je suis dans l'idée de pourquoi je travaillerais si fort que ça, si je peux juste les attendre parce qu'ils vont venir vers moi anyway. Fait que j'ai regardé les endroits qui étaient le plus choisis pour attaquer ou qui passaient au travers. Donc, évidemment, les antivirus, EDR.
Ils vont les fermer. Ils ont des scripts automatiques pour les faire fermer. Puis oui.
Firewall, parce que si je veux faire entrer par feu, s'ils veulent faire rentrer du stock ou sortir, il va falloir qu'ils changent les paramètres. Donc, n'importe quoi pour les pare-feu, pour les EDR, changer tes configurations devrait être extrêmement difficile. Tu devrais avoir plus qu'un compte, parce encore là, si tu as besoin d'un deuxième compte, s'il ne sait pas d'avance, c'est un petit peu plus malfaisant à 3 heures du matin. Après ça, ça a été d'un autre sens. C'est aussi pour le AD puis le DC, Domain Controller puis le Active Directory. Ça, j'ai vu qu'il y était deux endroits qui étaient extrêmement targetés parce qu'ils vont avoir besoin de plus d'accès s'ils ne l'ont pas déjà. Donc, ça vaut la peine de mettre un petit peu plus d'accent sur cette protection-là envers ces deux choses-là. Puis après ça, le cloud, qui est tellement le fun, mais pas très, très sécure souvent. Donc, s'il n'y a pas des bucket leaks, ce qui arrive souvent avec des credentials, c'est une place où est-ce que vu qu'on met toutes nos données là et qu'un rançon logiciel va vouloir prendre tes données, c'est vraiment un endroit qui va être targeté pour les données. Regardez qu'est-ce qui se fait exfiltrer out and in, puis les sizes, ça, juste ça, ça va être un bon giveaway. Tout ce qui est les remote services, donc VPN, tout ce qui donne accès à any desk, pas d'autres exemples en tête tout de suite, là, qui fait que tu peux te connecter de d'ailleurs dans ton environnement, ça, là, c'est laisser la porte de garage ouverte. Ça, là, ça se fait. Parce qu'à moins que ton attaquant il est déjà sur les lieux de ta business, ils vont les utiliser pour se connecter. Donc, se connecter devrait être extrêmement difficile, devrait être nécessaire minimum un MFA, s'il vous plaît. Faites un MFA. Et n'acceptez pas à 3h du matin ou 4h du matin si vous avez un prompt.
Oui, ça s'est vu là, énormément.
Oui, donc ça, c'est très commun. Donc ça, ça a été certaines des locations, des endroits que j'ai mis beaucoup d'emphase, justement parce qu'il allait aller les targeter. Moi, je l'ai vu souvent. Le cloud n'était pas un endroit qui était très commun jusqu'en 2020. Mon échantillon était de 2016 à 2023. Mais 2020 avec...
On sait ce qui s'est passé. Ça. Tout le monde est basculé là, donc c'est sûr que l'intérêt a basculé là aussi. Là, c'est
exactement. Donc, ça a été... Regardez les endroits, tout ce qui était avant 2020, il y avait d'autres, mais c'était pas super. Puis après ça, cloud, ça, je l'ai vu, ça a commencé à augmenter drastiquement en 2020. Donc, c'est pour ça que c'est rendu un des spots que je dis vraiment de faire attention avec les permissions, les accès.
Mais permission d'accès, oui. Puis je vais renchérir un peu ce que tu dis pour savoir ce que j'ai vu. C'est qu'on voit des scripts standards, on voit des éléments très standards. Ils ne cherchent pas très fort. Comme tu dis, ils ne forcent pas beaucoup. Fait que c'est toujours dans un contexte où ils vont utiliser des boîtes à outils classiques.
Mm-hmm.
Et j'ai vu même dernièrement des vieux outils qui datent début des années 2010 en action. Puis là, je fais comme, c'est encore vivant ces outils-là, ils utilisent encore ça. Donc, on voit que tant qu'on n'a pas besoin de forcer, ils ne forceront pas. Des fois, j'ai vu des cas là, qui commencent avec des attaques simples. D'un coup, j'ai vu basculer vers des attaques plus complexes. Je vois qu'ils ont des accès à des outils plus puissants ou plus recherchés ou plus coûteux probablement. Parce que ça doit leur coûter de l'argent, ces outils-là. Et comment tout ça évolue, mais ça revient à la base que si ces outils-là, ou j'ai vu Bloodhound il n'y a pas longtemps, j'ai vu Mimikatz pour les nommer, et quand on les voit passer, ben on se constate qu'ils vont vers le chemin toujours le plus facile. Tu parlais de l'AD, Bloodhound, ouais. C'est l'outil pour scanner un AD. Mm-hmm. Et en même temps, puis ça c'est l'autre aspect, surveiller, parce que Bloodhound fait beaucoup de bruit. Si on a moindrement des choses qui sont bien configurées, bien allées, on sert à alerter immédiatement qu'il y a un Bloodhound dans ton environnement parce que c'est excessivement bruyant. On va chercher du Cobalt Strike aussi qu'on peut voir de temps en temps. Fait que, c'est tous des éléments très standards, très simples. Et juste faire ça, on va arrêter, comme tu dis, au moins 80% des cas.
Une des choses qui m'avait le plus surprise, puis là, ça, c'était surtout d'un point de vue criminologique. Je voulais vraiment regarder comment ils vont faire l'évasion de défense, right? Parce que d'un point de vue criminologique, c'était un peu ça le qui était le plus intéressant pour moi. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que et d'un, pour évader des défenses, il faut qu'il y ait des défenses en premier lieu. Mais que même les techniques d'évasion de défense, OK, oui, mais le but ultime, c'était vraiment d'évader la détection. Ça a été... Ça, je pense pas que ça a été tant parlé dans la littérature scientifique qu'ils veulent pas se faire détecter trop tôt. Parce que ça, c'est vraiment leur avantage de rester sous le radar le plus longtemps possible, jusqu'à temps qu'eux autres décident showtime. Donc, il y avait énormément de techniques qui allaient pour brouiller le trafic. Ça a été énorme. Ça a changé, les techniques pour le faire changent énormément. Ça, il y a eu beaucoup plus de changements dans le temps. C'est aussi peut-être une question de préférence de comment ils veulent le faire. Mais il y avait énormément d'emphase sur brouiller le trafic. Puis ça, je trouve ça, c'est pas tant mon domaine d'expertise là-dedans, mais je l'avais nommé, puis de comment essayer de détecter ça, parce que comment tu trouves ton aiguille dans une botte de foin, là? Parce que, tu sais, ce que les chercheurs, surtout peut-être plus scientifiques, qui n'ont pas d'expérience technique, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est à quel point ça peut être bruyant, juste la norme de données. Tu sais, comme on peut dire, oui, il faut améliorer les techniques de détection de trafic, d'analyse de trafic. OK, mais est-ce que tu comprends à quel point qu'il y en a, comme dépendamment évidemment de l'environnement? Donc, c'est toujours intéressant de voir comment qu'eux autres se cachent dans le trafic puis les moyens de mettre de la lumière là-dessus. Parce que, tu sais, tu te dis, OK, oui, les attaques sont saines. Ça, on est d'accord. Sauf que si, en même temps, tu dois attaquer, mais que tu sais que tes défendeurs sont en train de te chercher et de te trouver, la tâche devient un petit peu plus complexe, là. Tu sais, c'est beaucoup plus dur de hacker puis d'encrypter, mais de chercher tes données et tout pendant que tu as quelqu'un qui te court en arrière de toi. Là. C'est un peu Pac-Man qui t'essaie de... J'ai utilisé Pac-Man dans mon doc comme théorie des jeux. Mais c'est un peu cette image-là de t'essayer de courir, mais tu as quelqu'un en arrière de toi. Tu vas faire plus d'erreurs, tu n'auras peut-être pas le temps. Puis moi, ce que je voulais, c'est t'enlever ce temps précieux-là puis de te mettre beaucoup plus d'attention où est-ce que tu n'en veux pas puis que ça soit beaucoup plus dur de te cacher. Parce que.
Oh, ben, oui, se cacher, puis pour en avoir géré des incidents où on est arrivé juste au moment, puis on a, dans le cas, c'est le cas classique, on coupe l'Internet.
Oui.
C'est. On voit qu'il est là, mais on voit qu'il ne nous a pas vus. Fait que là, tu fermes l'Internet, puis là, tu oui. nettoies, puis ensuite, tu réouvres. Justement, pour arriver à cet état-là, mais pour avoir la chance de le détecter mm-hmm. avant qu'il nous ait vus. Tu sais, là, c'est comme un peu l'espèce de. Faut que tu sois suffisamment silencieux quand tu le détectes pour pas qu'il sache que t'es dans. Fait que, puis les autres aussi, ils voient, sont quand même si c'est assez basique ce qu'ils utilisent, ils ont quand même des capacités minimales et les outils maintenant leur permettent de repérer quand ils sont repérés, puis à ce moment-là, soit de disparaître rapidement. Ça, de s'auto-détruire aussi, on le voit beaucoup avec les info-stealers, qui est une autre branche de choses mm-hmm. dans laquelle l'autodestruction fait partie du processus. Donc, il y a des choses qui évoluent, puis il y a d'autres branches qui vont avec ça, qui sont différentes de celles des ransomware plus classiques.
Ça, j'avoue, d'un côté, point de vue de réponse à incident, ça, par exemple, moi, ça, je trouve ça le fun. Quand tu as la course de qui est-ce qui va gagner au bouton rouge, là. Mais je dis ça, mais c'est pas mon environnement. Donc, c'est peut-être un plaisir personnel, mais ça a toujours un challenge. Puis quand je parle à plein de gens qui sont dans le domaine, c'est toujours comme l'interaction face à face des deux équipes, c'est toujours plus le fun que juste être tout seul derrière un ordinateur.
Oui, ça fait partie de la culture hacker ou dans laquelle on cherche le défi aussi.
Oui.
C'est, on est là dans cet univers-là, on est pas. Puis en plus, c'est assez drame notre travail en général que il faut qu'on ait un certain plaisir à l'exécuter. Puis je comprends très bien que de cette course-là, de qui va remporter la course à ce moment-là, puis qui va gagner, mm-hmm. c'est très, très challengeant. Puis j'ai eu quelques bons succès, d'autres moins bons succès. Dans ma carrière, mais quand on a un succès et on a réussi à atteindre quelque chose, je suis vraiment en accord avec ce que tu dis. Là. Il y a comme une adrénaline et un plaisir à ça.
Ça, surtout que, tu sais, il y a toujours l'élément de ça pourrait être n'importe qui d'entre nous. Tu le sais pas, c'est qui est de l'autre côté. Bien, avoir les compétences, ça pourrait être mon collègue. Clairement pas, là, mais comme, tu sais, ça pourrait être quelqu'un qui est ici aujourd'hui. Ça pourrait. Tu sais, fait qu'il y a toujours ce. Ce plaisir-là de savoir comme je joue contre quelqu'un de mon niveau ou quelqu'un qui pourrait être un ami à moi, puis je le sais pas. Tu sais, ça peut être. Puis ça, des fois, je trouve ça vraiment le fun, tu sais, de jouer genre. Qui est-ce ici, vous pensez qu'après 8 heures le soir, après que les enfants soient couchés, pour être un hacker? Comme. Malicieux, hacker, malicieux. Puis juste de s'amuser comme ça, mais clairement juste pour le fun.
T'as pas tort parce qu'il y en a dans certains autres pays qui font effectivement ce genre de choses-là, qui pendant le jour sont payés soit par l'État, soit par une compagnie pour attaquer des systèmes. Et le soir, j'avais parlé avec des chercheurs à Montréal, puis ils avaient détecté certaines ressemblances, mais en dehors des heures de travail normales mm-hmm. du pays. Fait que là, clairement, la personne avait ramené son outil, son laptop de travail et réutilisé pour ses besoins personnels. Donc, il faisait du rançon logiciel pour son bénéfice propre et non pour son employeur ou pour le gouvernement qui le paye. C'est tout à fait fascinant. Fait que c'est pas exclu qu'ici, il y ait eu quelqu'un ou quelqu'un qui fait ça, arrondisse ses fins de mois en faisant ce genre de choses-là. Et d'un point de vue de l'esprit criminel, puis c'était un criminel, fait que c'est vraiment dans ça.
Oh oui.
Le côté de l'esprit criminel, qu'est-ce qui motiverait les gens à faire ce genre de choses-là? Puis d'ailleurs, je vais glisser là-dessus. T'as-tu vu la motivation? On n'a pas vraiment parlé de la motivation humaine que tu as pu retracer en arrière de ça, puis justement qui amène l'autre facette qu'on ne traite pas en techno normalement, mais qui nous aiderait à mettre, en, au-delà du fait de sous-cloisonner MFA, tout ça, là, qui nous amènerait ailleurs à comprendre et à mieux défendre nos systèmes?
Pour la point de vue des motivations, c'est sûr que moi, avec les rançons GTS, c'est beaucoup de motivation financière. Tu as mentionné un petit peu au début pour les accès. J'ai commencé à regarder un peu plus les Initial Access Brokers. Et dans le temps que je travaillais en CTI, j'avais beaucoup, j'étais souvent sur Dark Web et tout, puis je voyais vraiment les mouvements d'acheter des accès. Puis ça, j'ai trouvé ça le plus intéressant, c'est de savoir combien les gens vendaient leur accès dans les compagnies pour soit qu'ils allaient cliquer sur un phishing puis faire semblant qu'ils ne savaient pas. Ou, tu sais, puis les prix étaient très bas. C'était comme 100 US, là. C'est pas beaucoup pour le risque. Fait que moi, j'ai vraiment regardé les motivations de mais qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à ce point-là? Puis ça, c'est pas une motivation qui est financière du tout. Ça va vraiment être une motivation personnelle. Ça, là, si t'es prête à vendre tes accès pour 100$, là, tu le fais pas pour l'argent. Tu le fais parce que ton boss te gosse, ta compagnie, t'as pas eu ton bonus, t'as pas eu... Puis ça, là, c'est vraiment dur à gérer et à analyser les risques de tes employés parce qu'ils ont tellement d'accès. Puis quand tu fais de la réponse à incident, veux, veux pas, des fois, tu regardes les accès de tout le monde puis les comptes. Puis là, tu fais comme moi, mais je sais pas si c'était l'ignorance ou si c'était ils l'ont fait exprès et tout. Donc ça, ça devient vraiment difficile à gager. L'autre chose, c'est que ça peut n'importe qui pour... Ben, pas n'importe qui, il faut quand même que tu aies certaines skills ou des connaissances précises. Et tu sais, souvent, on dit on est toujours à 3 mauvaises chances de le faire nous-mêmes. Tu sais, comme à 3 pays d'être dans la rue. Fait que quelqu'un qui a besoin d'argent puis qui a les bons skills, tu sais, les marchés sont faits pour ça, là. Je veux dire, c'est pas... si t'as la motivation, t'as une façon de le faire, là. Faut juste un peu de connaissances, là, mais... Ça a été vraiment du côté d'un point de vue criminologue, de regarder les motivations puis qu'est-ce qui pousse les gens. Puis tu sais, tu commences à vendre des accès, mais après ça, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Ou après ça, qu'est-ce qui va t'intéresser? Ou qu'est-ce que. Fait que tu peux vraiment partir de là puis de bouger vers les rançons judiciaires.
De basculer comme un peu à la. Ouais, ben de commencer de partir simplement quelque chose de simple et finir dans un univers autre. On a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés sur ce que tu as étudié et que tu aimerais parler?
Ah, c'était une très bonne question. Je pourrais parler de ma thèse pendant des heures et des heures. Mais ce que je voudrais vraiment focusser sur, c'est l'approche que j'ai prise, c'était vraiment multidisciplinaire. Donc, j'ai pris des théories qui étaient de l'écologie, de l'économie, de la criminologie technique. Puis mon but, c'était vraiment d'identifier des points d'intervention dans le script. Donc, j'ai créé un nouvel kill chain avec les techniques qui étaient les plus utilisées. Puis, dans le fond, ce qui m'a amené à vraiment penser comment on voit les infrastructures puis comment qu'on les configure. Puis de penser vraiment security by design, sécurité par... OK.
On regarde en anglais, là. Okay. Fais pas l'effort.
Mais, tu sais, l'importance du security by design puis de commencer avec la sécurité en place, puis il n'est jamais trop tard pour revoir tes configurations. Puis juste ça pourrait vraiment aider. Et aussi que c'est pas tout le monde qui va se faire attaquer par un APT group. Donc, on peut-tu regarder les vraies menaces? Les menaces les plus appropriées pour chacun, chaque organisation. Puis travailler sur ça, parce que ça aussi, ça va beaucoup plus aider que de penser que la Chine va t'attaquer quand t'es une petite PME dans le fin fond à la Minerve, là, comme... Je veux dire, à moins que ce soit vraiment malchanceux, mais rendu là, tu sais, qu'on retourne à la base, qu'on retourne dans nos configurations. Je sais que c'est pas super sexy, puis je sais que c'est pas un produit groundbreaking, mais la base est encore très importante. Donc, c'est ça.
Très intéressant, très important. Les recherches plus académiques, justement, pour nous donner un éclairage nouveau. J'aime beaucoup ça parce que ça permet d'aller plus loin. Je te remercie énormément de ce partage-là. Je te remercie énormément d'avoir pris un moment pour venir parler sur le podcast. C'est très intéressant. J'espère que ça va éclairer les gens, justement, de refaire l'hygiène de base, revenir à comment on devrait, puis on va probablement aller plus loin juste avec ça.
Exactement. Merci beaucoup de m'avoir. Ça a été vraiment plaisant.
Merci.
Merci.